De retour dans l'air CV, merci beaucoup d'avoir choisi l'émission en ce lundi 11 mars, 0 degré à l'extérieur. Pour Québec, maximum aujourd'hui va tourner autour de 2. Faible neige intermittente mêlée de pluie, c'est ce qu'on a. C'est un peu gris. C'est gris, mais on a eu de la neige. Pour ceux qui sont pas contents, dites-vous que ça va partir dans les prochains jours. Ben, c'est au-dessus de zéro, pas mal, et c'est du soleil. Mais on a eu cette petite bordée de neige qui fait en sorte qu'on va avoir quelques heures de ski supplémentaires. La seule chose qui est plate, c'est que c'était pas en relâche. Moi, j'ai pensé aux enfants en fin de semaine, puis je me disais, j'aurais aimé ça qu'il y ait cette bordée de neige-là pendant la relâche, mais tout le monde s'est occupé comme il pouvait. En fin de semaine, les galeries de la capitale, c'était le vrai chaos. Je sais pas si vous êtes allés là. Le chaos, mais positif. Les gens étaient de bonne humeur, puis en profitaient. Dans ce contexte inflationniste, il y a un événement qui est fort attendu. Je ne sais pas si pour vous, il est attendu. Tu sais, dans votre quotidien, est-ce que vraiment ça prend de la place, le budget provincial? Je pense que c'est peut-être dans les annonces les plus scrutées par les citoyens, mais peut-être que aussi je me trompe parce que je suis dans une chambre d'écho, puis pour moi, l'actualité puis ce qui se passe aux politiques est bien important, puis bien scruté, bien analysé. Pour le faire, on va aller rejoindre notre collaborateur à l'émission, Jérémy Guillaume. Je me trompe tout le temps. Je m'excuse. Ça doit pas être la première fois qu'on te fait reprendre ton
nom. C'est pas la première, c'est pas la dernière.
Et on va te rejoindre directement en studio, c'est ça qui est le fun. T'es descendu de Montréal pour nous ce matin, mais surtout pour l'exercice du budget provincial aussi, puis pour les affaires, parce que tu es directeur chez TAC, mais tu as travaillé longtemps là, dans les coulisses du provincial, du fédéral. Merci d'être avec nous en studio ce matin.
Ça fait plaisir. Pourquoi pas rendre l'utile à l'agréable et arrêter en studio?
Ben oui, puis en plus, ben, faire de la radio, c'est le plus beau métier du monde, même si tu peux dire que c'est le tien. Moi, je vais m'obstiner avec toi. Mais chose certaine, il y a la traditionnelle journée du budget demain. Elle est importante. Tu m'as entendu d'entrée de jeu dire c'est une journée, je pense, qui rallie un peu tout le monde, les citoyens. Mais est-ce que je me trouve dans une chambre d'écho quand je dis ça? Est-ce que vraiment les gens sont attentifs à ce qui sera proposé dans ce budget Girard-là?
Je pense que c'est surtout les entrepreneurs, les syndicats, les organisations qui vont porter une grande attention aujourd'hui. On s'attend pas à, comme l'année dernière, par exemple, des baisses d'impôts, des chèques qui vont toucher directement les citoyens. On a eu déjà des grosses parties du budget, là, la négociation, par exemple, avec les enseignants, on l'a suivi de très près. Donc, je sais pas à quel point les gens vont être marqués au quotidien par le budget de demain. Ce qui est sûr, c'est il y a le budget et après, il y a les annonces du budget. Et c'est là où que les gens vont peut-être être un petit peu plus marqués par l'exercice qu'on fait.
OK, parce qu'il y a plein de journalistes qui vont aller dépoussiérer ce qu'on va déposer. Souvent, c'est épais, ça n'a pas de sens. Pour avoir couvert un dépôt de budget avec un de mes collègues, ben, nous, en plus, on était une plus petite équipe que bien d'autres médias. Puis on couvrait ça à deux parce qu'on saignait du nez aux 15 minutes. La façon dont c'est écrit, la façon dont c'est proposé, c'est très politique, là, avec des numéros, puis des lois, puis des budgets sur ci, sur ça, sur où est-ce qu'on s'en va. Et dépoussiérer tout ça, souvent, ça prend plusieurs heures à des journalistes. Les politiciens ou encore les staffers, l'équipe des politiciens, sont disponibles sur place pour aider à comprendre certains points de ce budget-là. C'est une énorme journée. Est-ce qu'elle sera énorme pour le ministre Éric Girard? Non, parce que le travail est fait, je pense, majoritairement. Il va plutôt dévoiler sa nouvelle paire de chaussures la fin du budget.
Ben, c'est une grosse journée pour le ministre parce que...
Oui, dans l'annonce.
C'est très faible. Dans l'exercice du budget, tu as bien sûr une équipe qui s'occupe de superviser, de regarder les prévisions tout au long de l'année. Mais le gros du travail, c'est dans les trois derniers mois. Je te dirais depuis janvier, l'exercice des consultations prébudgétaires qui est comme l'opportunité de sortir de la bulle politique pour les politiciens puis d'aller écouter ce qui se passe. Tout le mois de février, c'est les délibérations, les choix difficiles. Et là, l'exercice que M. Girard s'apprête à faire, c'est extrêmement demandant. Nous, on parle aujourd'hui, une entrevue, on en parle. Lui, il va faire ce même exercice-là dans différents médias. Il va faire un point de presse, il va faire un discours à l'Assemblée nationale. Lui, sa journée, elle commence très tôt ce matin. Elle a commencé depuis bien de bonne heure à matin. Puis elle va se finir très tard aussi. Et il va s'embarquer dans une tournée. C'est un moment très chargé pour le ministre des Finances.
Et en même temps, pas cru. Je pensais que le gros du travail était fait. Okay,
mais le gros du travail de construction du budget y est fait.
Mais dans
maintenant,
la présentation.
C'est un exercice de... C'est un exercice de communication. C'est pas toujours... Là, on s'attend à probablement un déficit. Hein. On avait prévu un déficit de 4 milliards. Le chiffre qui circule, c'est plus 6 milliards. Donc, tout ça, comment ça va être reçu dans la population? Comment faire en sorte de s'assurer qu'on se concentre sur les priorités gouvernementales, de répondre aux critiques de l'opposition? Là, dans un exercice qu'on dit responsable, mais c'est pas tout le monde qui va être heureux à la fin de la journée. Donc, comment aller attacher tous ces fils-là? C'est dans cet exercice-là que le ministre s'engage, et c'est très demandant aussi.
Qui est la cible principale du ministre Girard en ce moment? Est-ce que ce sont les entrepreneurs? Est-ce que ce sont les citoyens? Est-ce que ce sont les journalistes? Qui l'inquiète le plus dans la réception d'un budget comme celui-ci? Dis-moi pas tout le monde.
Ben, non.
Tout le monde est concerné.
Non. Mais de toute façon, je dis toujours en communication, quand tu essaies de parler à tout le monde, tu parles à personne. l'électorat de la CAQ, de façon générale.
Les électeurs,
C'est sûr que tu peux pas dépolitiser ce processus-là. Tu peux pas demander à la CAQ de pas parler aux entrepreneurs. C'est comme si tu demandais à Québec solidaire de pas parler aux gens qui ont le changement climatique à cœur. Ils doivent rester très, très fidèles à leur base. On entend parler en ce moment qu'il y aurait le retour d'une vieille promesse électorale, la révision des programmes gouvernementaux pour s'assurer de leur efficacité.
Là, tu viens de perdre la moitié des auditeurs.
Bon, bien, ce que ça veut dire, ça, c'est que la CAQ est arrivée, souvenez-vous, en 2018, en disant « l'État est inefficace, l'État peut être de façon plus efficace. Nous, on est un gouvernement pragmatique. »
On veut travailler la structure, l'administration,
Exactement.
Être coupé dans ce qui est un petit peu trop présent et qui ne nous permet pas de passer un projet de loi et de voir son efficacité sur le terrain.
Exactement. Mais quand la CAQ est arrivée, elle avait un surplus budgétaire de 4 milliards de dollars. Donc, c'est peut-être pas super sexy de venir dire aux organismes communautaires, on va vous enlever tel programme, on va restructurer tel programme pour s'assurer que ce soit le plus efficace possible. Mais là, les finances publiques ont un petit peu plus de misère. On voit qu'il y a un déficit qui s'amène. Donc, on ne voudra pas parler d'austérité ou de rigueur budgétaire comme les libéraux ont fait. On choisit le mot responsable.
Et si on retournait avec l'austérité, d'après moi, il y en a une couple qui se retournerait justement en furie. Avec Couillard, il avait tellement payé cher. Là. Les libéraux avaient tellement payé cher avec
Mais je
l'austérité.
Pense qu'on va voir un peu le même genre d'opération. On parle de responsable, on parle de rigueur budgétaire. On va contrôler les dépenses de l'État. Il va falloir ce que le gouvernement va essayer de nous dire, c'est que les croissances des dépenses ne peuvent plus continuer de monter.
Et ça va paraître pour qui? Ça va paraître pour les citoyens?
Bien, ultimement, ça finit toujours par paraître pour les citoyens. Là, on a eu les négociations avec les enseignants qui a eu une augmentation. Le gouvernement avait budgété une augmentation de 12 %. On a eu 17 % d'augmentation. Donc, c'est sûr que on doit rééquilibrer. Mais ce qu'on m'assure au niveau du gouvernement, c'est qu'il n'y aura pas de coupure budgétaire. Donc, on ne verra pas de programme disparaître. Il va peut-être avoir des fusions. Peut-être que ce n'est pas l'année où on va donner des chèques de 400 à 600 $
Ça va être une belle année, ça, pour ça.
Donc, c'est ça la suite des choses là, qu'on s'en vient. Les pages qui retiennent l'attention le jour du budget, c'est souvent la première section puis la dernière section qui
Pourquoi?
Est la section du déficit.
Quelles sont ces sections-là?
Bien, c'est là où le gouvernement veut placer ces messages. Donc, la journée du budget, souvent, ce qu'on va voir, c'est les messages du gouvernement et après ça va découler les critiques. Mais c'est là où ce qu'on va voir, par exemple, où le gouvernement attribue le gros de l'argent. Bon, souvent, c'est santé et éducation qui monopolisent la grande majorité des dépenses de l'État. Ce qui va sortir, moi, selon moi, demain, ça va être l'ampleur du déficit. On en est où et c'est quoi le plan pour revenir à l'équilibre budgétaire?
Ça va être la ligne principale, ça?
Bien, c'est ça que les médias vont vouloir couvrir. Mmh. C'est certain que moi, si on ne parlait pas de ça demain, je serais très, très, très surpris.
OK. Puis la dernière portion de ce budget-là, c'est...
C'est souvent la dernière portion de la façon dont le budget est structuré. Oui. Les dernières pages sont souvent consacrées au déficit, etc. La première, c'est plus comme le résumé exécutif. Mmh. Donc, c'est quoi les piliers stratégiques où l'argent du gouvernement, ou notre argent, va être investi au cours de la prochaine année?
Il y a beaucoup de critiques souvent sur la gestion financière d'un gouvernement. On se perd avec des millions, on se perd dans des milliards. On parle d'un déficit qu'on n'est même pas capable de se transposer dans notre tête. T'sais, on n'a pas d'image d'à quel point ces sommes-là sont grandes. Le déficit, j'ai l'impression qu'il n'est pas pris au sérieux par bien des gens parce qu'on se dit qu'on ne réussira jamais d'avoir de toute manière à réussir à rembourser tout ce qu'on aurait à rembourser ou à, comment dire, moi, je me dis mettre la carte de crédit à zéro là, du Québec. Là.
Ouais, mais on ne parle pas de 2 000 $ là. On parle
de
milliards.
De dollars. J'ai l'impression que ça décourage bien des gens dans la compréhension, mais là où ça ne décourage pas des citoyens, c'est de se dire, est-ce que le politicien perd la valeur de l'argent une fois en fonction? Parce que moi, si je te dis, Jérémy, je te donne un budget X et voici ce que tu as pour vivre, te loger, te nourrir, tu vas calculer tes sous, tu vas faire attention à où est-ce que tu mets ton argent. Quand tu arrives en politique et tu gères l'argent des autres, tu gères l'argent de l'État. Je pense que quand tu arrives, tu es très conscient de ça, j'ose croire, mais à un moment donné, tu t'y perds aussi. Plus tu as d'argent dans la vie, plus tu te permets des dépenses extravagantes parce que tu déconnectes un peu de cette valeur-là qui est si importante pour le quotidien, par exemple, des Québécois. Tu s'en vas à l'épicerie maintenant, tu vas choisir ce que tu vas acheter dans ton panier. Est-ce qu'ils ont, à un moment donné, déconnecté certains politiciens de cette valeur de l'argent-là qui est l'argent des contribuables?
Il y a deux volets. Il y a un exercice que les stratèges aiment bien faire pour rappeler aux élus justement cette notion-là.
Okay.
Et on fait souvent des sondages pour demander aux gens, est-ce que vous trouvez que c'est assez d'argent? Et là, on dit 1 million, 100 millions, 1 milliard.
Personne ne le comprend.
T'sais. Personne, parce que souvent, les gens n'auront pas accès à 100 millions de dollars dans leur vie. Donc, on aime bien ramener cet exercice-là pour rappeler aux politiciens que si on mène avec l'argent dans notre façon de faire de la politique, on perd les gens. C'est toujours la même proportion de gens qui trouvent que c'est trop, pas assez ou qui ne peuvent pas se prononcer. Ce qui m'amène à parler, cet effet-là, moi, selon moi, c'est aussi l'effet du cycle électoral. À chaque 4 ans, on en renouvelle. On ne veut pas être les politiciens qui se font accuser de ne pas construire les arénas qu'on a besoin, de ne pas investir dans nos enseignants. Mais il y a des décisions difficiles qui viennent des fois avec le fait de faire de la politique. Et quand on a un gouvernement, par exemple, comme François Legault, qui est arrivé avec un surplus budgétaire et qui a utilisé ce surplus budgétaire-là pour, entre autres, gérer la pandémie, ce qui a permis de ne pas s'enfoncer dans le trou, un peu comme au fédéral, mais qui a aussi utilisé une partie de cet argent-là pour envoyer des chèques, ça a coûté des milliards de dollars, et pour baisser les impôts, qui a coûté des milliards de dollars.
Parce que j'appelle ça avoir l'air du gentil politicien et s'acheter des votes parfois.
Bien, des fois, de distribuer des cadeaux avec ce surplus-là, alors que ces surplus-là, selon moi, pourraient être utilisés à intervenir dans des situations économiques plus difficiles comme on vit en ce moment.
Parce que ça fait moins de belles jambes. Parce que toi, quand tu es citoyen, tu reçois ton chèque versus, bien, on est en train de mettre de l'argent à un endroit où tu t'en rendras jamais compte, mais que ça a un impact sur l'économie ou l'inflation en ce moment. Mais tu le vois pas au quotidien dans tes mains en tant que citoyen. Il faut du courage politique pour faire ce choix-là.
Bien, c'est sûr. Puis les chèques, Stephen Harper avait fait la même chose à l'époque, mais j'aimerais ça, moi, un jour, voir nos politiciens dire « on n'enverra pas de cadeaux tout de suite pour éventuellement, quand l'économie, parce que c'est cyclique, l'économie, ça va bien, après ça, il va y avoir une période plus difficile. Et c'est dans les périodes plus difficiles que l'État devrait, selon moi, intervenir davantage. Mais si on s'est enlevé notre capacité de payer en distribuant des programmes bonbons à gauche puis à droite, je me souviens, à un moment donné, le gouvernement fédéral avait annoncé un gouvernement de soutien pour les programmes de camping. » À un moment donné, là, tu sais, faut pas non plus rire des gens en dilapidant l'argent public pour essayer d'aller chercher des électeurs qu'on pense qu'ils vont voter pour nous.
OK. Fait que là, pour ce qu'il en est d'avoir de l'argent entre les mains pour un politicien et de comprendre sa valeur, est-ce que ça se perd à un moment donné en politique?
Bien, c'est sûr que c'est pas ton argent. C'est pas ton compte de banque. Et là, tu as des philosophies, tu as des idéologies, tu as des politiciens qui sont davantage « on dépense à la Justin Trudeau », tu as des politiciens qui, comme M. Girard d'ailleurs, a cette réputation-là d'être plus structuré dans la façon dont il veut dépenser l'argent. Ça va aller avec... Il y a des idéologies. Les libéraux dépensent un peu plus. Les conservateurs sont un peu plus rigoureux au niveau de la gestion budgétaire. Est-ce que tu le perds? Je pense que ça dépend de chaque individu.
c'est bien répondu. Ça veut dire qu'il y en a qu'on peut peut-être un peu plus être en accord avec leurs dépenses et d'autres non. Demain, jour de budget, c'est intéressant pour bien des gens, mais ça va l'être encore plus quand le gouvernement va nous exposer en tant que citoyens qu'est-ce que ça peut changer dans notre vie. Ça ressemble à quoi une journée de budget? Demain, on se lève très, très tôt. On a cette présentation-là aux journalistes et tout. Bien là, il y a des huis clos quand même qui se font, là.
Oui, c'est ça que j'allais dire. En fait, pour les gens qui sont pas à même l'équipe du ministre des Finances, c'est très relax une journée de budget jusqu'à 16 heures.
Oui.
L'heure où ce que le budget va être lu. Parce qu'il y a toute une période de huis clos où ce que là, les organismes, les organisations, les médias,
aussi,
tout le monde est appelé à éplucher ce qu'il va avoir là-dedans un petit peu d'avance. Hein, pas le droit de cellulaire, pas le droit d'ordinateur.
C'est un huis clos. Ça veut dire que les portes sont fermées, personne ne communique avec l'extérieur. Nous sommes tous ensemble, mais on vous fait comprendre ces feuilles-là.
Et ça, c'est fait pour que dès qu'on sort du huis clos, ben là, les journalistes vont pouvoir commencer à rapporter l'information, les grandes lignes, etc. Les fonctionnaires du ministre des Finances aussi sont mis à disposition des gens pour se faire expliquer qu'est-ce que ça veut dire, on en est où, etc. Le ministre est rendu disponible pour répondre aux questions. Donc, cet exercice-là est prenant pour les gens qui sont dedans. Mais les gens qui sont à l'extérieur, pas d'autre chose à faire que d'attendre. Je pense, par exemple, aux organisations qui ont formulé des demandes dans les derniers mois. Bien, ces gens-là vont devoir peut-être attendre à 4 heures pour voir est-ce que leur demande, oui ou non, a été entendue. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, les critiques sortent souvent le lendemain ou un petit peu après quand les gens ont pris le temps de bien décortiquer tout ce qu'il y a
dedans. Et de voir qu'on aura ou pas les subventions demandées. Puis si je fais un dernier parallèle avec le fait qu'il y a des banques alimentaires, en tout cas l'organisme de banque alimentaire ici au Québec a demandé un 10 millions supplémentaires pour essayer de renforcer les produits frais qu'ils ont à l'intérieur pour aider les gens. Je sais qu'à la dernière minute, ils ont demandé ça la semaine dernière pour s'assurer d'être vu dans le budget. Probablement que ça s'est discuté là, en coulisses, mais eux sont sortis dans les médias à la dernière minute.
C'est très difficile de demander quelque chose en ce moment. Pour les organismes, là, le truc pour faire des demandes, un, c'est de ne pas avoir une liste d'épiceries, mais c'est d'avoir une ou deux demandes très claires et bien chiffrées et de déposer ces demandes-là janvier, février, fin février, là, ça commence à être temps pour espérer. Parce que en ce moment, là, le budget, ça fait des jours qu'il est imprimé, qu'il est écrit, qu'il a été revu et relu.
Les sommes sont vues.
Tout
sont
est
vus.
Passé au peigne fin dans un document comme celui-là. Là. Donc, à ce temps-ci, oui, il y a des ajustements de dernière minute qui peuvent se faire. C'est très, très rare.
Jérémy Guillot, en terminant rapidement l'exercice du ministre Girard demain, en présentant le budget, est-ce que ça peut faire en sorte qu'il ne sera pas réélu aux prochaines élections? Parce qu'il est dans un contexte inflationniste, dans un contexte où on sera dans le déficit. On va annoncer probablement beaucoup moins de cadeaux que ce qu'on a annoncé dans le passé. Où le ministre de l'Économie est un peu épargné de tout ça parce qu'on sait que les finances, c'est pas facile puis c'est jamais nécessairement jojo.
Je ne pense pas que le budget de demain, à moins qu'il y ait une bourde fondamentale, joue dans la réélection du ministre Girard, voire même de la CAQ. Il reste beaucoup de temps à la CAQ pour se placer. On sait, une journée, une semaine en politique, c'est une éternité. Quand on parle en termes d'années, c'est encore plus vrai. Le budget, par contre, va nous dicter où le gouvernement va mettre ses efforts dans la prochaine année.
J'ai l'impression aussi que tu es un peu dans une bulle de verre quand tu es ministre de l'Économie versus un ministre de l'Éducation, un ministre de la Santé, parce que les finances, on le sait, c'est complexe pour tous et chacun.
N'importe quel ministre qui reste trop longtemps à Québec dans son bureau au lieu d'aller sur le terrain est dans une bulle de verre.
Intéressant ça. Merci beaucoup, Jérémy Guillot, directeur chez TAC et ben, ancien mafioso de la politique au fédéral et au provincial. Ça veut dire qu'il était staffer, il connaissait les coulisses. On se reparle la semaine prochaine?
Oui.
Merci d'avoir été dans leur CV. Caravane à boulevard 102-1 TDAH. On revient dans un instant. Je cueille des fleurs.